Nous allons ce matin commencer une autre partie de notre programme, la vie dans la dépendance de Dieu. Et c'est un sujet un peu particulier qui est assez, dont il est généralement peu ou pas du tout parlé, et c'est un sujet qui envisage le salut de l'homme sous un jour qui n'est pas tout à fait celui sous lequel nous en entendons généralement parler ou sous lequel nous voyons nous-mêmes le salut. D'abord, il y a une chose, c'est que trop souvent, nous avons confusément dans l'esprit que le salut, la vie chrétienne, c'est quelque chose, dans le fond, d'assez élastique, d'assez vague. Ça relève du domaine un peu des sentiments. Nous pensons que, en définitive, tout pourra bien s'arranger. Nous aurons eu des luttes, bien sûr, nous aurons eu des bas, des hauts, mais enfin, en fin de compte, tout s'arrangera bien et puis nous serons sauvés. Et assez souvent, nous plaçons nous-mêmes sur notre vie chrétienne une assurance du salut qui n'est pas toujours fondée, réellement fondée. Eh bien, la religion, selon l'étymologie du terme, c'est une relation entre Dieu et l'homme. À ce point de vue-là, le mot « religion » est bon, est exact. Il n'est pas exact dans les différentes acceptions qu'on lui a attribuées, mais il est vrai dans ce sens étymologique, c'est une relation, en effet, de Dieu avec les hommes. Et cette relation, elle est soumise à des lois. Elle n'est pas chose plus ou moins estimable, je veux dire, qui va peut-être accepter telle ou telle situation plus ou moins bonne. Non, ça n'est pas cela. Le salut exige une relation qui deviendra parfaite entre Dieu et nous. Et il faudrait qu'au cours de la vie chrétienne, cette relation soit aussi rapidement, aussi devenue aussi bonne que possible. Les progrès dans la vie chrétienne tendent à cela, à rendre cette relation aussi resserrée qu'il se peut. On l'appelle communion. Je n'emploie pas toujours le mot de communion parce qu'il est peut-être un petit peu usé ce terme. Mais je dis relation, je dis union entre Dieu et l'homme par le Christ, et cette relation est celle dont nous parle la prière sacerdotale Jean 17. Alors, je voudrais vous expliquer tout ça, vous expliquer que la voie du salut répond à des lois qui ne sont pas, elles, flexibles, comme les lois que nous connaissons dans la nature, qui régissent les phénomènes, les matériaux. Ce ne sont pas des lois flexibles, mais des lois rigoureuses. Des lois rigoureuses. En biologie, il y a des lois qui n'ont pas toujours cette rigueur, parce que on ne les connaît que sur un fragment de leur action. Mais si on connaissait les lois entièrement, nous verrions qu'elles sont elles aussi rigoureuses. Donc le salut répond à des lois rigoureuses. Je vous ai déjà dit que la justice de Dieu, qui est la base de son trône, c'est-à-dire de son règne, est inflexible. Et la justice de Dieu est parfaite, et c'est un ordre, un grand ordre, qui est éternel. La justice est éternelle, est-il dit, bien sûr. C'est elle qui supporte l'ordre de la perfection, l'ordre, le grand ordre de la sainteté absolue, et nous, nous sommes en marche vers cela, il faut que nous atteignions la perfection, la sainteté même de Dieu, tout cela est nécessaire, et notre salut est à ce compte. Notre salut est à ce compte. Par conséquent, actuellement, nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés parce que Dieu le déclare et que Dieu lui-même a foi en son œuvre. Je dis bien Dieu a la foi. Quand dans les Éphésiens, il est dit « Ayez la fidélité de Dieu ». Mais on peut très bien traduire et beaucoup de traducteurs préfèrent traduire « Dieu, ayez la foi de Dieu ». Parce que fidélité, pistis, fidélité ou foi, c'est le même mot. Alors, Dieu a foi, Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Il nous portera à la perfection, nous rendra inébranlables, tout cela, c'est écrit. Mais à condition, mes amis, que nous-mêmes, nous soyons, selon la mesure de foi que nous avons, que nous soyons en marche vers cette perfection. Alors, il y a donc, disons, de l'absolu dans le plan de Dieu. Et le salut, ce n'est pas quelque chose de fluctuant, de vague, quelque chose qui s'obtiendra malgré tout, parce que Dieu est bon, sa bonté sera, ira jusqu'à ne plus voir peut-être que nous aurons vécu une vie de tiédeur, par exemple, c'est pas vrai du tout. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas que il faille regarder la voie du salut comme très difficile. Je le redis toujours, la vie chrétienne authentique est plus facile, bien plus facile, que la vie chrétienne qui reste entre deux eaux. La vie chrétienne qui ne s'élève pas, celle-là est difficile. Mais la vie chrétienne authentique, mes commandements ne sont pas pénibles. Mon joug est léger, a dit le Seigneur. Donc la vie chrétienne a ses lois qu'il faut connaître. Et je vais d'abord vous en citer deux. Les lois, d'ailleurs, de la vie chrétienne forment un faisceau qui se réunissent en une seule expression, ou si vous voulez, un seul commandement, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. » Voilà, n'est-ce pas, la relation, l'amour est une relation, et c'est la relation, c'est le lien de la perfection, l'amour... groupe donc est en somme au fait de toutes les lois ou commandements qu'il peut y avoir. Eh bien, je vais vous en citer deux pour la vie chrétienne, n'est-ce pas ? La première, c'est l'action incessante de la foi. Action sur laquelle, par conséquent, nous aurons à veiller particulièrement l'action de la foi. Car il n'y a rien d'autre en nous. Dieu n'a rien laissé en nous qui puisse établir ou maintenir la relation avec lui. La deuxième loi est celle-ci, l'entière et continuelle dépendance de Dieu. Dépendance de Dieu. L'entière et continuelle dépendance de Dieu. Eh bien, c'est cette seconde loi que nous avons pour dessein d'étudier. Disons d'abord que l'homme a été créé pour vivre dans la dépendance de Dieu. J'ai employé ce terme parce qu'il est clair, on le comprend bien, la dépendance de Dieu. En lui-même, l'homme n'a pas la vie. Et pourquoi n'a-t-il pas la vie? Parce qu'il n'a aucune source en lui. Il n'a pas de source. Il est, si vous voulez, comme n'importe quel engin mécanique, une voiture automobile par exemple, dont le réservoir est vide. Eh bien, cette voiture, elle a beau être très toute neuve et très bien faite, très bien conditionnée, elle ne va pas marcher, vous êtes d'accord? Eh bien, l'homme, disons, est cela. Il n'a aucune source d'énergie, aucune source de vie en lui-même. Il n'a pas la source. La source de vie, elle n'est qu'en Dieu et en Christ. Dans Jean 5, le Seigneur Jésus dit comme le Père de Dieu a la vie en lui, a la vie en lui-même, moi-même, son Fils, j'ai la vie en moi-même. Et dans ce même chapitre, il dit qu'il donne la vie à qui il veut. Il a donc une source, une vie qui se donne, une source de vie. Mais l'homme n'en a pas. Il a donc été fait pour vivre dans une relation. Si on voulait employer un terme scientifique, on dirait il a été fait pour vivre en symbiose. Vous savez ce que c'est ? Symbiose, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ça vient de bios, ça vient de bios, et ça veut dire une vie unie à celle de Dieu. Il a été fait pour vivre en symbiose dans l'union avec Dieu. Voyons déjà un passage à ce sujet dans Éphésiens chapitre 2 et verset 22. Nous allons lire même 20, à partir de 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà comment l'homme a été conçu. Être une habitation de Dieu en esprit. C'est donc de Dieu qu'Adam et Ève avaient à recevoir constamment, ce qui entretenait en eux la vie parfaite. Avant la chute, ils avaient la vie parfaite. C'est pas la peine d'épiloguer sur les tas de choses en Éden avant la chute, et de parler d'une innocence qu'on fait presque bébête. C'est pas ça du tout. L'homme était pourvu d'une très haute intelligence. La sagesse était en lui. Dieu avait mis la sagesse et l'intelligence en lui. Et il était fait pour vivre dans la dépendance de Dieu, c'est-à-dire en union avec Dieu. Lors de la chute, l'homme a pris son indépendance, ce qui aujourd'hui fait qu'il est et qu'il s'affirme autonome. C'est le mot que l'on emploie beaucoup, aussi bien en théologie que même dans le monde. L'homme se veut autonome. Je cite souvent les qualificatifs et qualificatifs stupides que les philosophes aiment employer, l'homme absolutisé, l'homme absolu ou l'homme total, l'homme absolutisé. Quelle bêtise, quelle sottise, quelle parole de... Vraiment, ça c'est une parole qui, à elle seule, avilit l'intelligence de l'homme. L'homme a l'intelligence d'un fou, dit Jean. Mais c'est vrai. L'homme absolutisé, quel cri de révolte que cela. L'homme autonome, il n'a besoin de personne. Il est tout seul, il peut vivre lui-même. Nous allons voir quelle est la folie de cette prétention. Alors, efforçons-nous de penser à cette loi de dépendance, puisque l'homme est créé pour vivre dans la dépendance. D'abord, nous allons constater, pour y arriver, que les lois du monde spirituel sont analogues aux lois du monde naturel. Autrement dit, les lois que les hommes peuvent relever, parce que les lois, ils ne les inventent pas, ils les découvrent, peuvent découvrir dans la nature, lois qui régissent les phénomènes, lois qui régissent la matière, les interactions, etc. Toutes ces lois sont les lois du monde physique, du monde naturel. Eh bien, le monde spirituel a lui aussi des lois, et les lois du monde spirituel ne sont pas différentes de celles du monde naturel. Nous allons voir que le monde naturel, les lois du monde naturel dépendent des lois du monde spirituel. La preuve est déjà à en voir dans les paraboles. Mais qu'appelle-t-on loi? Je le rappellerai pour la bonne compréhension de ce que nous disons maintenant. La loi, c'est en somme une règle constatée, une règle auquel sont assujettis des phénomènes de la nature, et les lois règlent l'ordre du monde physique. S'il n'y avait pas de loi pour régler la matière et les phénomènes qui agissent dans le monde physique, eh bien, ce monde n'existerait pas. N'existerait pas. On a souvent pensé à cela. Si, par exemple, on change quelque chose dans l'attraction des électricités de même sens qui se repoussent et de sens contraire qui s'attirent, changer quelque chose à cela, et tout le monde est détruit. Le monde entier est détruit. Voyez, changer une seule des lois, et tout est détruit. Et il y a quantité de lois, plus ou moins, qui ont plus ou moins d'importance et d'envergure pour la vie des hommes, et que les hommes ont plus ou moins utilisé. N'importe quelle mécanique, cela par exemple, là, ces magnétophones, là, tout cela ne marche que parce que l'on a découvert des propriétés de la matière, des lois, et qu'on les a utilisées telles qu'elles étaient, sans les changer, et sans, on s'ingénie au contraire, en matière de technologie, non pas à changer, mais à bien connaître les phénomènes, et pour les utiliser dans toutes leurs possibilités. Par conséquent, ce que l'homme fait dans la matière, la soumission qu'il apporte aux lois de la matière, il la refuse aux lois de l'esprit. Vous voyez comme c'est fou. Comme c'est fou. Il ne connaît pas les lois de l'esprit, il ne veut pas les connaître, et il refuse. Et pourtant, les lois de l'esprit et les lois de la nature sont en liaison. Je disais qu'il faut déjà en voir la preuve dans les paraboles. Les paraboles du Seigneur. Il veut, le Seigneur, nous parler d'une haute vérité. Et que fait-il? Il prend dans le monde matériel, il prendra le blé, il prendra la vigne, il prendra différentes choses qui tombent sous le sens, que les hommes connaissent bien. Et alors, que fera-t-il? Eh bien, il mettra une réflexion. Il mettra une réflexion sur le monde visible. Il vous dira, voilà ce qui se passe dans le monde visible. Et cette réflexion conduira à une réflexion sur le monde invisible. L'univers visible, notre monde matériel, cet univers visible est un développement du monde invisible. Un développement. Et nous pourrions tout de suite revoir certains passages, par exemple Colossiens chapitre 1. Je vous conseille de retenir ce que nous disons là pour entrer plus profondément, voyez-vous, dans la connaissance des choses de Dieu. C'est nécessaire, cela. Ce n'est pas que vous aurez à expliquer toutes ces choses-là à des inconvertis, mais pour vous, c'est nécessaire de les connaître, et cela fera venir en vous une appréciation, ou plutôt une réflexion, une pensée bien plus profonde et bien plus exacte sur la voie du salut. Alors, prenons Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées, il s'agit de Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, arrêtons-nous une petite minute sur ce verset. Qui nous dit que Christ, qui est la parole de Dieu, accomplissant la volonté du Père, donc a été l'instrument de toute la création. La volonté, la décision est provenue de la souveraineté du Père, mais lui a été l'instrument d'accomplissement. Il est Dieu, il a le pouvoir créateur et il crée les choses que le Père veut qu'ils soient créées. Alors, il est dit que c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Bon, alors ici nous voyons tout de suite les deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Alors, j'ai fait au tableau certains schémas. Voyez-vous, c'est très simple, ça n'a aucune prétention, c'est ce qu'il faut. Et alors, nous avons ici, j'ai figuré Dieu, n'est-ce pas, et si vous voulez, au-dessus de ce trait bleu, là, le monde invisible. Le monde invisible, et ses flèches indiquent que c'est bien Dieu qui régit ce monde, bien sûr, et qui l'a créé. Et puis, en bas, sous cet arc de cercle, j'ai voulu figurer ici le monde visible, la Terre. Je ne l'ai pas écrit, mais ça ne fait rien. C'est la Terre, l'univers, le monde visible. Et ce monde est également créé, et il y a ces flèches indiquent que c'est Dieu qui maintient toute chose, comme nous le verrons d'un peu plus près, il maintient toute chose en existence. Donc, le monde invisible et le monde visible. Voilà deux mondes qui émanent de Dieu et de l'action de Christ, n'est-ce pas? Bon, alors, chers amis, pourrait-on admettre que pour ce monde-là, ce monde invisible, les lois, puisqu'il y en a, toute la Bible nous le dit, il y a les lois du ciel, il y a les lois de l'esprit, eh bien, que les lois ici ne soient pas en harmonie avec les lois qui opère ici dans le monde visible. En somme, Dieu aurait eu certaines lois ici, qui auraient eu un certain déterminisme, ça le mot est peut-être un peu trop philosophique, disons, aurait eu une certaine un certain but, si vous voulez. Et puis là, n'est-ce pas, il y en aurait eu un autre. Il y aurait eu des lois différentes, et les lois d'ici et les lois de là seraient en désaccord, elles seraient en tout cas très différentes l'une de l'autre, elles ne s'accorderaient pas. C'est pas possible! Vous voyez que ce n'est pas possible. Le même Dieu et le même auteur a créé ce monde-là et celui-là. Et par conséquent, il a établi une harmonie, d'autant plus que lui, le Seigneur ne voulait aucune séparation entre les deux mondes. En effet, voyez dans les Colossiens, verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Bien sûr, il faut faire la paix avec l'homme pécheur. Hein? Il faut que l'homme pécheur retrouve la paix et la réconciliation soit réconciliée avec son Dieu. Bien, mais Dieu nous veut que le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde invisible et le monde visible, soient en harmonie. Et ils peuvent être en harmonie parce que les lois qui régissent là sont les mêmes que celles-ci. Ça, c'est une pensée à laquelle on arrive avec tout à fait d'assurance, de certitude, quand on y réfléchit. Le monde créé qui nous renferme, ce monde visible, c'est-à-dire sensible à nos cinq sens, est l'image du monde invisible. Et c'est en effet pour cela que dans les Romains, chapitre 1, verset 20, l'apôtre Paul peut écrire « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables. » Eh bien, pour écrire cela, il faut évidemment que le monde créé, le monde visible, soit en harmonie, et cette harmonie résulte du fait que les lois sont les mêmes, en harmonie avec le monde invisible. Alors les perfections de Dieu se voient, si on veut les voir, par la foi dans le monde visible. Beaucoup d'enseignements de la Bible sont d'ailleurs dans cette constatation-là. Il y a une harmonie que nous ressentons et que la Bible exprime. Une harmonie entre le monde naturel ou visible et le monde spirituel ou le monde invisible. Invisible encore maintenant, mais qui ne restera pas toujours invisible. C'est au point que le monde naturel est un témoin du monde de l'esprit ou du monde invisible. Il est un témoin. Il postule l'existence de ce monde invisible. Et l'un et l'autre monde, je viens de le dire, proviennent de la même main créatrice, du même auteur. Il n'y a qu'un seul auteur. On peut dire que les lois spirituelles et les lois naturelles sont un seul et même ensemble de lois. Et, chers amis, c'est ce qui fait que lorsque vous intervenez dans le spirituel. Vous intervenez comment ? Par la piété, la prière, par la méditation, par l'obéissance. Vous intervenez. Et qu'est-ce qui se produit souvent ? C'est que la répercussion a lieu dans le monde visible, dans le monde naturel. Vous intervenez et vous êtes bénis. Et c'est ce que le Seigneur disait au peuple d'Israël dans le Deutéronome, vous savez, les bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voyez, mes amis, nous agissons dans le spirituel. Et nous retrouvons déjà maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut se cantonner à ce genre de bénédiction et ne rechercher que les bénédictions terrestres. Mais le Seigneur veut, entend les donner, ces bénédictions. Et j'en ai fait personnellement l'expérience, je ne vous dis pas là uniquement quelque chose de théorique, j'en ai fait des expériences, mais alors très, très démonstratives, tout à fait démonstratives, lorsque dans une certaine action que j'allais conduire au loin sur la demande du ministère de l'Agriculture, eh bien, je suis arrivé à pied d'œuvre, et là j'avais dit au Seigneur ce que j'ai à faire, les choses que j'ai à résoudre, les difficultés pour lesquelles on m'a envoyé ici, eh bien, Seigneur, moi, je vois cela dans ta justice, et je vais parler de ta justice, avant de discourir et de faire toutes sortes de choses. Essayer de régler le problème moi-même avec les données qui sont à ras de terre, je vais, moi, m'en rapporter à ta justice. Eh bien, chers amis, ça, le résultat a été fantastique. Fantastique. Moi, j'ai parlé de la justice, j'ai montré la justice de Dieu, hein, et sur la terre, les choses se sont réglées. Voilà. Donc, quand vous agissez dans le spirituel, le Seigneur vous bénit là où vous êtes, dans cette existence terrestre. Il vous bénira de façon spirituelle, bien sûr, mais il ne bénira pas que votre âme, lui qui vous demande d'offrir votre corps. Ah, il va pas, et il va vous bénir entièrement. Il faut penser à ces choses, chers amis, vous voyez, c'est... Et donc, quelque chose, en somme, le jeu des lois, lorsque le Seigneur parle d'amour, et de l'aimer, et d'aimer le prochain, que dit-il, en somme? Il dit tout simplement, il faut que les lois de l'esprit soient mises en honneur. Faites jouer les lois de l'esprit. Quand il parle d'amour, ce n'est pas l'amour sentimental, bien qu'il puisse y avoir une certaine... disons, un certain sentiment dans l'amour, n'est-ce pas, envers Dieu. Je ne dis pas que c'est absolument sec, n'est-ce pas, mais ce qu'il y a avant tout, la Bible nous le dit bien, l'amour de Dieu consiste à quoi? À obéir à ses commandements. Et dans le peuple d'Israël, on le savait si bien que l'on disait, on ne peut pas aimer le Seigneur si l'on désobéit. Aimer, ça signifie avant tout obéir au Seigneur. Donc, quand le Seigneur nous demande d'aimer, il nous demande de nous attacher à lui par le lien de l'amour, enfin, qui en lui-même, bien sûr, contient la genèse de ce bonheur merveilleux, bien sûr. Ça, je n'écarte pas cela. Mais ce qu'il demande avant tout dans l'amour, c'est que ce soit un lien avec lui pour agir selon les lois de l'esprit. Si la nature créée et le monde spirituel sont ensemble dans une constante relation, comme nous venons de le voir, et dans une harmonie, alors l'homme lui-même ne peut manquer d'être dans une relation avec l'invisible. Et sa vie a sa raison d'être et sa source dans le monde spirituel, c'est-à-dire en Dieu. Alors, si vous voulez, nous allons regarder ce schéma-là. Ici, j'ai indiqué Dieu et Christ comme source de lumière. C'est pour ça que j'ai mis des flèches en jaune, source de lumière. Et ici, dans cette sorte de rectangle, j'ai figuré l'homme. C'est schématique, bien sûr, n'est-ce pas ? L'homme, esprit, âme et corps. C'est l'homme qui est donc, dont l'être est entier, comme dit, votre être tout entier, esprit, âme et corps. Alors, cet homme est dans la dépendance de Dieu, nous reverrons cela, il est dans la lumière de Dieu, dans la lumière de Christ, et alors, il a son être tout entier, il a l'esprit qui est en pleine vie, l'âme et le corps. Alors, voilà l'homme vraiment, l'homme tel que Dieu le veut, l'homme promis à la vie éternelle. Pour être arrivé là, il a fallu qu'il soit sauvé, bien sûr. Et alors ici, c'est le monde des ténèbres. J'ai figuré comme ceci le monde des ténèbres. Et ici, vous voyez que c'est en somme cette figure, mais raccourci, l'esprit n'y est plus. Et ça, c'est la situation de l'homme autonome qui est perdu. Alors, il n'y a plus qu'un tandem. Cet homme n'est plus qu'un tandem. Il a une âme et un corps. L'âme est liée, est très liée au corps, mais le corps agit sur l'âme, puisque l'esprit n'est plus là pour guider l'âme. Alors, l'âme, au lieu de jouer son rôle de direction sur le corps, l'âme est elle-même influencée par le corps et par les fonctions physiologiques du corps, c'est-à-dire la chair avec ses appétits, avec ses convoitises, n'est-ce pas ? Et la chair, elle n'a pas d'esprit par elle-même. Alors, voilà l'homme autonome perdu parce que cet homme, il est mort. Vous étiez mort par vos offenses, c'est-à-dire parce que votre esprit, qui est là, n'est-ce pas, était absolument atrophié, sans vie. L'esprit, c'est lui qui a les relations avec Dieu, c'est lui qui domine sur l'âme et qui fait que l'âme va donner au corps les directions conformes à la volonté de Dieu. C'est elle qui va tenir le corps en bride, comme dit l'apôtre Paul. Mais ici, dans la situation de l'homme perdu, il n'y a plus que l'âme et le corps. Tels sont les hommes aujourd'hui, âme et corps. Ainsi, le péché a conduit l'homme à ne dépendre que de lui-même. Il est séparé, coupé de Dieu, il ne peut pas être autrement que coupé parce que son esprit est atrophié et mort. Et comme supprimé, là je l'ai supprimé carrément, hein, il ne joue plus son rôle. L'esprit ne joue plus son rôle des relations avec Dieu, par conséquent cet homme est coupé. Il est coupé, il est dans un état de mort. C'est ce que dit le Seigneur Jésus, laisse les morts enterrer leurs morts. Alors que la vie spirituelle résulte de la pleine dépendance de Dieu, c'est-à-dire, quand nous parlons de dépendance de Dieu, nous parlons d'un lien avec Dieu, bien sûr, et par le moyen de ce lien, d'un apport continuel. Ah, chers amis, prenez bien garde à ça. Un apport continuel, continuel. On ne peut pas dire « je suis réconcilié avec Dieu », merci Seigneur, nous ne sommes plus fâchés, maintenant je vais me promener, je vais où je veux. Hein? Je vais faire ce que je veux à nouveau. Je suis réconcilié, ça va bien. Immédiatement, la cassure revient. Nous sommes réconciliés avec Dieu pour vivre dans la dépendance de Dieu. Et de Dieu vient un apport constant. Je veux vous faire toucher, par exemple, dans un exemple, cette dépendance. Pourquoi Jésus a-t-il dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait,
Entendons bien, si tu veux être parfait. Le jeune homme riche venait vers Jésus en demandant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle. Et Jésus de lui dire, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et c'est précisément ce que le jeune homme n'a pas consenti à faire, cela l'a attristé. Il aurait bien sûr tout à fait volontiers accepté n'importe quoi, un commandement nouveau, si Jésus lui a dit, eh bien écoute, je t'ajoute un commandement peut-être difficile, plus exigeant que les autres, il aurait accepté. Et si Jésus lui a dit, eh bien, écoute, tu vas quitter pour un an ou deux, tu vas quitter ta maison, tes serviteurs, tout ça, et puis tu vas venir avec moi sur les routes, tu vas me suivre. Eh bien, il l'aurait fait. Mais ensuite, il serait revenu. Il l'aurait fait, mais avec la pensée de revenir à sa situation précédente, après avoir fait une sorte de longue retraite aux côtés du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, non, il faut que tu te coupes. Il faut que tu vendes tout ça. Parce que, au travers de sa fortune, qui était grande, ce jeune homme restait dans la dépendance de lui-même. Voilà ce que Jésus... C'est pas le fait tellement de posséder beaucoup de biens, mais c'est parce que, à cause de ses biens, il restait dépendant de lui-même, il restait en somme attaché à ses biens par la gestion, et sa vie reposait sur une bonne gestion de ses biens, et son cœur était naturellement rempli des pensées et des préoccupations de cette autodépendance de lui-même. En lui conseillant de tout vendre pour tout abandonner, le Seigneur lui indique donc le seul moyen de supprimer cette dépendance de soi et d'être libre pour entrer dans une totale dépendance de Dieu. Alors là, tu seras parfait. Entrer dans une dépendance de Dieu, devenir parfait. La perfection étant donc la conséquence d'une vie de dépendance de Dieu. La perfection est la conséquence d'une vie de dépendance de Dieu. Ah, il ne s'agit pas de perfection morale, je le dis souvent seulement, il s'agit d'une perfection totale. Et cela résulte d'une vie de dépendance de Dieu. Le but de la vie chrétienne, Paul nous l'indique dans les Colossiens, chapitre 1er et verset 28, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voyez-vous à quoi sert la force du Saint-Esprit ? Ça ne sert pas seulement qu'à pousser des alléluia ou à peut-être faire des opérations. C'est très bien que le Seigneur accepte à certains moments de répondre à la foi de certaines personnes, de les guérir, de les transformer. Tout ça, c'est très bien. Ce sont des opérations, disons, qui se voient, des opérations souvent rapides, se font en un instant. Mais la puissance du Saint-Esprit fait toute l'œuvre qui est à faire et elle veut notamment agir dans l'apôtre Paul, comme elle agira dans tout ministre de l'Évangile, quel que soit son ministère, pour arriver à cela, n'est-ce pas ? C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et alors il s'agit de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, devenu mûr, devenu atteint, ayant atteint la maturité complète, la stature parfaite de Christ. Paul nous dit ça dans l'Église. Il veut ça. Et voyez, pourquoi dit-il cela? Parce qu'il est conscient, il a été renseigné par l'Esprit, il est conscient qu'il faut atteindre la perfection, la stature parfaite de Christ. Le plein développement, cette stature parfaite, est le plein développement de l'être nouveau dans la communion avec le Christ, et dans la communion, l'être nouveau reçoit la plénitude de Dieu. Ouh, vous savez, on pourra en parler assez longuement de la plénitude de Dieu. Et cette plénitude, il la reçoit, non pas d'un coup comme ça, il la reçoit constamment, constamment, constamment. La vie humaine, en somme, a besoin de trois choses, et c'est ce que nous verrons encore ce matin avant de terminer. La vie humaine a besoin de trois choses. Je l'ai écrit là-dessus. Elle a besoin d'être maintenue, besoin d'être entretenue et besoin d'être protégée. Si une vie chrétienne, dite chrétienne, une vie humaine, dite chrétienne, n'a pas ces trois avantages, ne retire pas ces trois avantages de sa relation avec le Christ, eh bien, elle n'est pas dans son équilibre. Et cette vie chrétienne ne peut pas être heureuse. Elle ne peut pas aboutir. Alors, être maintenu, entretenu et protégé, tout cela vient de Dieu. L'homme ne peut pourvoir à ces nécessités-là que très incomplètement lui-même et sur le plan physique seulement. Et encore est-il que je vous dis, c'est très incomplet. Sur le plan physique, l'homme peut prétendre maintenir sa vie. Maintenir sa vie. Et on vieillit. Et puis, comme dit, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, l'homme extérieur se détruit. Bon, alors il ne peut pas la maintenir, il la maintient dans une certaine mesure, s'il est sage. Sa vie physique, il peut l'entretenir par l'apport énergétique de la nourriture, du bon air qu'il respire. Bon, il peut la protéger, s'il est sage aussi, en évitant les dangers. Hein. Mais enfin, il ne peut faire pour sa vie physique, et entendons-nous bien, pour sa vie physique, même une toute petite partie de ces choses. Mais en somme, c'est Dieu qui peut les faire. Alors, nous allons voir ces trois points-là. D'abord, la vie maintenue. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est par ta volonté que deux choses, qu'elles ont été créées, bien sûr, ça nous le comprenons bien, mais qu'elles existent, c'est-à-dire qu'elles sont maintenues en existence. C'est donc par la volonté de Dieu qu'elles sont maintenues en existence. Nous allons voir un autre passage, Hébreux, chapitre 1 et verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Vous voyez, Dieu a créé le monde par son Fils, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, verset 3. Et qui, le Fils, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et voilà ce qui nous intéresse, la phrase qui nous intéresse, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il soutient le monde. Il soutient essentiellement, là, naturellement, Il soutient essentiellement les enfants de Dieu. Il les soutient dans l'état où la grâce les a introduits. Les amis, il le soutient. Il faut donc qu'il soit soutenu. C'est la même idée que celle que nous avons trouvée dans Apocalypse 4, maintient toute chose par sa volonté. Puis, alors, nous avons les Colossiens aussi, Colossiens chapitre 1 et verset 17. Nous l'avons vu tout à l'heure, mais j'y reviens. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Vous voyez, c'est encore la même idée, c'est la même chose. Il soutient toute chose, ou toutes choses sont maintenues en existence, d'après Apocalypse 4, d'après Hébreux, il soutient toute chose, et là, ici, toute chose subsiste en lui, c'est-à-dire sont maintenues en existence. D'ailleurs, il y a le psaume 104 qui nous dit que si Dieu retirait son esprit, tout rentrerait dans le néant. Et quand Dieu retire son esprit de quelqu'un qui est dans l'Église, d'un membre de l'Église, eh bien, c'est grave. C'est excessivement grave. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, il n'est plus soutenu. Sa vie nouvelle n'est plus soutenue. Voilà déjà le premier point. Être maintenu en existence. La vie chrétienne a besoin, car c'est surtout de cela que nous nous occupons, non pas seulement de la vie physique, elle est secondaire, mais elle est quand même au bénéfice de cela. Eh bien, parlons de la vie chrétienne, elle est maintenue en existence, soutenue. Le deuxième point, c'est être entretenu. Être entretenu. Bon, la vie peut être soutenue, mais elle a besoin, cette vie, de consommer des choses. Il y a une consommation d'énergie, car la nourriture que nous prenons pour notre corps, c'est tout simplement une forme d'énergie. Hein? Que ce soit sous forme de pâte alimentaire que nous aimons bien, ou que ce soit autre chose, de la viande, c'est une source d'énergie que nous prenons. Eh bien, dans Matthieu, chapitre 4 et verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est repris du chapitre 8 du Deutéronome. Ainsi, là, cette parole du Seigneur est prononcée en réponse au tentateur qui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent, que ces pierres deviennent des pains. Et le Seigneur, lui, n'obéit pas à l'ordre de Satan, il obéit à Dieu, par conséquent, à la parole de son Père. Il s'agit de l'humanité du Seigneur, essentiellement, là, et cette humanité obéit parfaitement à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui dit, eh bien, des pains, je peux m'en passer. Quand Dieu dit que je dois jeûner, je peux me passer de ces pains, mais attention, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu est un, si je puis dire, un pain pour l'esprit, un pain pour la vie nouvelle. Elle est un pain. Et un pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien, c'est dans ce sens-là que le Seigneur a dit. Il n'a pas dit simplement, prends le pain du boulanger, que le Seigneur te donne le pain du boulanger, et il est bien utile ce pain du boulanger, mais ce n'est pas tout ça. Mais le Seigneur, lorsqu'il a dit de demander le pain quotidien, donne-nous notre pain de chaque jour, notre pain quotidien, donne-nous notre ration. On peut traduire ainsi, d'ailleurs, donne-nous notre ration. Et cette ration, il faut savoir que le Seigneur parlait, comme je le disais toujours, des choses d'ici-bas pour essentiellement mentionner les choses du dessus, n'est-ce pas ? Eh bien, donne-nous notre pain quotidien, notre apport quotidien, nourris notre esprit, nourris notre âme tous les jours, Seigneur, tous les jours. D'ailleurs, il y a une étude qui est peut-être faite, que j'ai faite dans la Bible, et qui montre que, en effet, Dieu veut renouveler cet apport chaque jour. Il y a un renouvellement quotidien et il faut que nous en soyons conscients et que nous désirions ce renouvellement quotidien. Nous avons besoin de manger tous les jours et nous avons besoin de recevoir cet apport énergétique de l'esprit à notre esprit tous les jours également. Et puis, il y a acte 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est Paul qui parle à Athènes, l'Aréopage, et il dit, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce qui veut dire que nous obtenons de Dieu, nous recevons de Dieu tout ce qui fait l'animation de la vie. La vie, donc, a besoin d'être entretenue par un apport quotidien. Et pensons à la vie spirituelle, il y a le renouvellement de chaque jour. Le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin, comme la manne, il la renouvelle chaque matin. Puis le troisième point, c'était être protégé. Alors là, l'Écriture est abondante en assurance de protection de ceux qui sont les justes de Dieu, qui observent les commandements, qui sont fidèles. Nous pouvons lire dans le psaume 41, le verset 3. L'Éternel le garde. On peut lire le verset au début, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Nous avons aussi le psaume 97 et le verset 10. Il y en a d'autres, mais enfin je vous en cite juste quelques-uns. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Voyez-vous, le Seigneur agit, il garde, il délivre, il sème la lumière afin qu'il y ait la joie, hein, il protège ses enfants. Tout cela ne saurait être limité à la vie physique et terrestre, c'est au contraire. Lorsque l'homme de foi envisage sa vie en sa totalité, esprit âme et corps, envisage sa vie en sa totalité et s'attache à Dieu, que les assurances de la parole de Dieu interviennent. J'ai déjà cité, je crois que c'est hier, avant-hier du moins, ce passage de 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19, le oui et l'amen sont en Christ pour toutes les promesses de Dieu. En définitive, la vie humaine sans relation avec Dieu est une vie qui consomme un élan en quelques dizaines d'années, et c'est une vie uniquement physique, c'est une vie de la chair. Elle consomme un élan en quelques dizaines d'années, puis cela s'éteint. C'est un état de mort, car le principal fait défaut, la source de vie. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils pour alimenter la vie ne peut pas avoir la vie. L'homme coupé de Dieu n'est qu'une partie d'un tout, et notre modeste petit schéma ici le montre bien. Voyez, l'homme qui est coupé, n'est-ce pas, voilà le tout. Et là, il n'est que la partie d'un tout. Il est coupé. Et il lui manque la partie essentielle, celle qui n'existe que dans une relation avec Dieu. Et faisons un parallèle avec quelque chose de bien connu, le charbon. Le charbon. Bon, eh bien, quand vous avez du charbon, vous pouvez le prendre dans les mains, ça vous salit les mains, mais c'est tout. Mais ça ne vous brûle pas. Ça ne vous fait aucun mal. Le charbon qui, lui, ne peut brûler et ne peut fournir de la chaleur, donc de l'énergie, que par la combinaison avec l'oxygène de l'air. Combinaison du carbone, qui est le principal composant du charbon, combinaison donc du carbone et de l'oxygène de l'air. Et la chaleur, elle provient de l'énergie développée dans la combinaison chimique carbone-oxygène. Le charbon tout seul ne peut pas fournir de chaleur. C'est à l'extérieur du charbon que celui-ci va prendre ce qui le fait brûler, ce qui le fait chauffer, et en définitive ce qui lui permet de donner de l'énergie à l'extérieur. Il va prendre de l'extérieur, l'oxygène de l'air. Voilà une grande comparaison. Hein. Eh bien, l'homme est comme ce charbon. S'il ne prend pas, alors à ce moment-là, ce n'est pas l'oxygène, mais c'est l'esprit du Seigneur, tout ce que le Seigneur est disposé à donner à l'homme. S'il ne le prend pas continuellement, eh bien, il ne peut pas lui-même manifester d'énergie sur le plan spirituel. Il est mort. Un organisme quelconque sur la terre, un animal, un poisson, un oiseau, une plante, peu importe, aucun organisme ne vit indépendant de la nature. Mais la nature est le complément indispensable. Et vous prenez une plante dans un pot en bel état, en belle vie, et que vous la mettiez dans un endroit noir, la privant d'eau, eh bien vous allez la retrouver 8 jours après, vous me direz comment elle sera, n'est-ce pas ? Sans le complément, chaque être a un complément qu'il doit prendre autour de lui, à l'extérieur de lui-même. Sans ce complément, un organisme n'existe que pour mourir aussitôt, mourir bien vite. Un poisson hors de l'eau, par exemple, meurt. Un être vivant n'existe et ne vit que s'il est entretenu par la nature qui le renferme. L'homme physique lui-même ne diffère pas en cela des autres êtres vivants. La nature lui est indispensable. Et qu'est-ce que la nature, l'ambiance, lui donne? Nous allons lui donner la prochaine leçon, lui donner un nom, l'environnement. Eh bien, qu'est-ce que l'environnement lui donne? L'environnement lui donne de l'air, c'est-à-dire de l'oxygène essentiellement, de l'eau, de la chaleur, de la nourriture variée et de la lumière. Mettez un animal quelconque ou l'homme lui-même dans une sphère bien close, faites le vide dans cette sphère, c'est la mort. C'est la mort. Si l'homme est privé, l'homme ou n'importe quel organisme est privé de son environnement, il meurt. Par conséquent, prenons l'homme, nous revenons à l'homme, mais l'exemple de n'importe quel organisme, n'est-ce pas, est là pour nous guider. Eh bien, prenons l'homme. L'homme, en somme, lui-même, a besoin d'un complément. L'homme, tout seul, ne peut pas vivre. Il a besoin d'un complément. Sur le plan physique, c'est tellement évident, nous le comprenons bien. Le complément air, respiration, le complément eau, le complément nourriture. Il a besoin d'un complément. Et sur le plan de la vie spirituel, il en est ainsi, chers amis. C'est pourquoi je vous ai dit au début de notre séance ici que les lois étaient les mêmes, les lois qui régissent le monde invisible, le monde spirituel, sont les mêmes. Le monde matériel est régi par les mêmes lois. Et ces lois, alors, elles entrent dans le monde matériel, dans la matière, n'est-ce pas? Mais elles existent dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a une certaine matière aussi, tout autre. Mais il y en a une aussi. Et tout cela est régi par les mêmes lois. Il faut un apport venant de Dieu. Dieu est une source de tout. Toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources sont en toi. Dieu est source. Il est Père des Lumières. Il est Père des Esprits. Dieu est lumière, il dispense la lumière. Sous tout cela, nous aurons l'occasion de le voir. L'homme n'est pas, lui, que physique. Il est une âme vivante, ayant en plus du corps, comme les animaux, en plus du corps. Il a une âme et un esprit. Il ne peut vivre vraiment que si ces trois éléments sont entretenus par l'extérieur de lui-même, et cet extérieur, la prochaine fois, nous l'appellerons l'environnement. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen.